Soyez les bienvenus, bonjour à vous et à Sébastien Legénie, le journal.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un rescapé de l'esclavage en Libye. Reportage en début de journal avec un journaliste africain victime d'un réseau de miliciens pendant 2 ans. Il publie son terrible récit la semaine prochaine. Le chef de l'État français cherche lui à rallier les jeunes au grand débat. Nouveau déplacement du chef de l'État aujourd'hui. Parallèlement, les gilets jaunes tentent de maintenir leur présence sur des ronds-points de plus en plus vide. Nous serons en Normandie. Dans l'actualité également, des salariés licenciés d'Arjowiggins qui menacent de se suicider. Au Venezuela, les quartiers populaires qui se rebellent contre Nicolas Maduro et la folie de la voiture vintage. Le salon Rétromobile ouvre ses portes aujourd'hui.
Voilà, je vous le redis, Charline en disait un mot à l'instant, c'est la présidente directrice générale de Radio France, Sybille Veil, qui sera au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et on commence, Sébastien, par ce témoignage bouleversant sur l'esclavage en Libye.
L'histoire d'un journaliste guinéen qui rêvait de rejoindre l'Europe et qui a fini capturé par des milices libyennes, réduit à l'état d'esclave pendant 2 ans, vendu pour 250 euros. Alpha Kaba est maintenant sorti de cet enfer et son calvaire, il a décidé de le raconter dans un livre à paraître lundi prochain. Isabelle Labéry et Mathieu Message ont rencontré Alpha Kaba à Bordeaux, là où il vit, désormais protégé par le statut de réfugié politique.
Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à sortir de là-bas vivant.
Son ton très posé cache beaucoup de souffrance et d'indicible. En Libye, dit Alpha, nous, les Noirs, nous n'étions plus des hommes, à peine des animaux.
On était revendus dans des marchés 300 à 400 dinars libyens. On a été ligotés, frappés, on nous mettait dans des coffres. 4-5 personnes dans le coffre d'une voiture, c'est de la barbarie.
Après 2 ans de cauchemar, Alpha se retrouve à la mer sur un Zodiac surchargé, direction l'Europe, avec le ciel pour seule boussole.
Vous voyez l'étoile là, l'étoile la plus brillante, on a dit oui, ils ont dit c'est là-bas l'Italie. À un moment donné, j'avais plus de salive dans la bouche tellement que j'avais peur. Je t'assure, même mon ennemi, je ne le conseille pas de vivre ce que j'ai vécu, quoi.
Recueilli par l'Aquarius, Alpha débarque en Italie avant de rejoindre Bordeaux et c'est un jeune journaliste qui l'aide à écrire son livre.
Prisonnier depuis des mois dans ce campo libyen. Bon, le livre quand même, c'est une fierté pour moi d'expliquer tout ce qui se vit en Libye et que le monde soit au courant.
Quand il aura réuni assez d'argent, Alpha a un autre projet, créer une association d'aide aux migrants. Bordeaux, Mathieu Message, Isabelle Labéry, France Inter.
Esclave des milices, voyage au cœur de l'enfer libyen. L'histoire d'Alpha Kaba sort lundi prochain en librairie.
Et personne n'échappera au grand débat.
Après les maires des petites villes, l'outre-mer, après les banlieues, Emmanuel Macron va donc tenter de mobiliser les jeunes. Le chef de l'État sera aujourd'hui dans le Morvan, en Bourgogne, au milieu d'une assemblée d'un millier de lycéens, d'étudiants ou d'apprentis, afin de discuter études, emploi, citoyenneté des jeunes de 15 à 25 ans, quasiment absents des débats depuis le début. Et ils ne sont pas les seuls à fuir le grand débat. Les gilets jaunes, les plus militants également, ceux-là continuent de se réunir malgré tout sur les ronds-points. Mais l'espoir des débuts a fait place à l'amertume. Reportage au rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, en Normandie, Thibault Lefèvre.
Encore quelques coups de klaxon de soutien et autour des 4 bras zéros installés à chaque sortie du rond-point, une trentaine de gilets jaunes.
Il y a plein dans le Normand.
Des manifestants de la première heure, parfois déçus de la tournure des événements. Thierry, retraité, 530 euros par mois, a passé la semaine dernière dans son Nord natal avant de revenir lundi sur le rond-point.
J'étais très surpris de voir une disparition totale du gilet jaune dans le Nord. Je suis très déçu, ça me fait mal même. Il faut être très motivé pour venir quotidiennement sur un rond-point. Un rond-point abandonné, c'est un rond-point qui se meurt.
Il reste donc les plus motivés, comme Olivier.
On lâche rien.
Opérateur industriel, 1800 euros par mois, il porte les revendications des gilets jaunes au-delà du rond-point. La semaine dernière, Olivier a par exemple participé à un débat organisé par un député de la majorité.
Le grand débat est encore un enfumage parce que vous vous retrouvez avec une référente macroniste, 3 gilets jaunes ou citoyens français, avec leur kit qu'ils fournissent, les décisions et les réponses étaient automatiquement dans le sens de M. Macron et de son gouvernement.
Alors depuis, Olivier organise ses propres débats, des assemblées citoyennes, selon ses mots, qui ont réuni jusqu'à 150 personnes. La prochaine se tient dans 2 semaines à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans une salle mise à disposition par la mairie.
Actualité Gilets jaunes encore, à noter que l'Élysée a décidé de renoncer à envoyer la lettre aux Français par courrier, trop cher, 5 à 7 millions d'euros. Et puis voilà une question qui intéressera sans doute les jeunes que le président rencontrera cet après-midi. Comment faire baisser le prix du permis de conduire en moyenne de 1800 euros aujourd'hui? Eh bien, pourquoi pas faire passer l'examen théorique, le code, pendant le service national universel? Proposition d'une députée d'En Marche qui vient de déposer un rapport sur le bureau d'Édouard Philippe, information de nos confrères du Parisien. C'est une première en justice des agents immobiliers condamnés pour discrimination raciale. Un père et son fils poursuivis pour avoir refusé de louer des biens à des personnes en raison de leur couleur de peau. 4 et 2 mois de prison avec sursis. Partons maintenant pour cette usine de papier en Seine-et-Marne, Arjo-Wiggins, qui brûle de colère depuis des jours. 240 salariés sont menacés de perdre leur emploi. Leur usine a été liquidée. Alors, pour exprimer leur découragement, ils brûlent leur stock de papier. Du papier pour billets de banque destinés à leurs clients mexicains ou israéliens. Un dernier coup de pression pour interpeller l'État et exiger de meilleures primes de départ. Mais l'espoir est mince et certains s'inquiètent déjà pour leurs collègues qui risquent de tout perdre. Écoutez, Rémi, il est salarié depuis 6 ans chez Arjo-Wiggins.
Depuis 20 jours, je vois des collègues qui ne sont plus les mêmes personnes qu'elles étaient il y a 2 mois en arrière. Je vois des gens qui ont changé complètement, et moi-même, de comportement. On a un collègue ce week-end qui a fait des bêtises, qui a mangé des boîtes de cachet, qui s'est retrouvé aussi à l'hôpital. Un qui a alerté par téléphone qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait se mettre en l'air. Donc c'est que le début, là. On n'est que sur le début parce qu'on ne le voyait pas encore il y a une semaine. Et là, depuis 3-4 jours, là, ça y est, les gens commencent vraiment à péter les plombs et là, il est temps qu'ils fassent vraiment quelque chose rapidement, quoi. On a fait carrière ici et on nous a virés comme des chiens, voilà, du jour au lendemain. Et sans rien en plus. C'est ça qui est scandaleux, quoi. Donc je pense qu'ils peuvent au moins faire un effort, quoi. Donc faut qu'ils payent rapidement avant qu'il y ait des drames, quoi. Mais le problème, s'ils attendent un drame, ils vont l'avoir, ça c'est sûr et certain.
Rémi au chômage depuis 7 semaines au micro de Maxime Debs. Lui ne se prive pas de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. François Hollande était hier soir invité de Sciences Po, l'ancien président qui disperse, qui ventile aux quatre coins de Paris, comme dirait Audiard. Laurence Beron a assisté à la scène.
Dans ce rôle de tonton flingueur, François Hollande excelle. Il disperse à droite d'abord, ça s'est attendu.
Aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir. Elle est au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Donc, on sait contre quoi on se bat. C'est pas contre une chimère.
Il ventile un président empêtré dans une crise des gilets jaunes qui a snobé les syndicats et les partis politiques.
Il fallait faire attention. Il n'y a rien de pire pour un citoyen de se faire donner la leçon.
À gauche, il éparpille Jean-Luc Mélenchon.
Je ne crois pas à des partis de chefs qui décident de tout. Ou le chef qui se prend pour la République. Ça peut arriver.
Benoît Hamon.
Je préfère avoir une vision qui permet de faire 28% que celle qui fait 6%. Je préfère voir les électeurs en face que de ne plus être vu par eux. Parce que le problème, c'est la visibilité, si vous voyez.
Plus cruel, il étrille cette fois les tentatives du PS de se refaire une santé.
Moi, je suis tout à fait favorable à cette exigence d'inventaire. Ce qui est un peu étrange, c'est de le faire 18 mois après, en pleine crise des gilets jaunes.
En mode plus professoral, il répond à la question de la crise de la social-démocratie en parlant écologie, réforme des institutions, prise en compte des territoires oubliés. Il ose même...
Maintenant, les 75% reviennent dans le débat public, mais je ne veux pas intervenir dans le grand débat aujourd'hui.
Non, il n'est pas en campagne pour 2022. Il refait juste celle de 2012.
Laurence Perron, direction le Venezuela maintenant, où Nicolas Maduro est de plus en plus isolé sur la scène internationale. 8 pays européens qui ont reconnu son opposant Juan Guaido et 5 pays d'Amérique latine se retrouvent aujourd'hui à Montevideo en Uruguay pour tenter de trouver une issue à la crise. Mais Nicolas Maduro est également isolé sur la scène intérieure. Fait nouveau, les quartiers populaires, soutien indéfectible de Chavez, sont en train de lâcher Maduro. Reportage à Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
Tout a commencé le 21 janvier dans le quartier populaire de Cotiza, au nord de Caracas. Des militaires se soulèvent dans une caserne et appellent le peuple à descendre dans la rue. Elisabeth habite juste en face.
À 5h du matin, on a entendu une série de rafales très impressionnantes. Des coups de mitraillette très fournis. On s'est dit, il se passe quelque chose.
Le bruit du soulèvement militaire circule dans le quartier. Les habitants décident de soutenir les rebelles par un concert de casseroles. Une centaine d'entre eux descend même dans la rue en hurlant des slogans anti-Maduro. La police, qui boucle le quartier, répond à coups de gaz lacrymogène. Elisabeth filme, ces images font le tour des réseaux sociaux et dans les heures qui suivent, la révolte s'étend à presque tous les quartiers populaires de la ville.
Pour la situation pays, pour l'hambre.
À cause de la situation du pays, à cause de la faim, nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus de ne pas avoir de médicaments. On s'est dit que c'était le moment. On a vu une lumière au bout du tunnel. Si même les militaires qui nous ont réprimés se soulèvent, il faut les soutenir.
Chose inédite, lors des deux manifestations convoquées par l'opposition qui ont suivi, les quartiers populaires investissent les rues en masse. Ce sont eux qui subissent la pire répression policière, des dizaines de personnes périssent, mais cela ne suffit pas à calmer leur colère ni leur détermination. Benjamin Delisle, Caracas, France Inter.
S'agit-il de la dépouille d'Emiliano Sala? Un corps a été récupéré hier soir dans l'épave de l'avion qui transportait le joueur argentin au-dessus de la Manche et qui gît par 67 mètres de fond depuis le 21 janvier dernier. La carcasse de l'avion elle-même n'a pas pu être remontée à cause des conditions météo.
Et on termine avec des chromes rutilants et des moteurs V12.
C'est le début du salon de la rétromobile, rendez-vous des amateurs de voitures de collection, plus de 100 000 visiteurs chaque année. En tout cas, si vous décidez d'y aller, vous le croiserez sans doute. Thierry Farge, c'est l'un des organisateurs, un passionné de vieilles caisses, qu'a rencontré Sonia Gobry.
Comment allez-vous ?
Cette scène se répète souvent quand on se balade dans les allées avec Thierry et on lui découvre des surnoms.
À moi, ça dépend, Thierry, Bibi, le fou, le doc.
Parce qu'il ressemble au doc du film Retour vers le futur avec ses longs cheveux blancs en bataille. Comme lui, il est très extraverti, il aime bidouiller des engins et Thierry affectionne tout particulièrement les voitures insolites.
Bon, avec ma petite famille, on circule en voiture amphibie pour que la voiture roule et elle flotte. Enfin bon, faut pas se leurrer, hein, ça reste une mauvaise voiture, un mauvais bateau.
En ce moment, Thierry essaie de reconstruire un aérotrain, c'est un rêve d'enfance.
J'étais gamin et je tombe sur un Paris Match que j'ai toujours, et marqué l'aérotrain, le train sans roue, le train volant, que ce sera le train de l'an 2000. Et je me suis dit, mais mince, ce qui me fait rêver dans mes bandes dessinées, ça existe.
Depuis, sa passion n'a cessé de grandir. En 1980, il propose de travailler bénévolement au salon Rétromobile. Et aujourd'hui, c'est lui qui cherche les voitures à exposer. Pour cela, il s'appuie sur tous les documents qu'il accumule depuis des décennies.
Il y a certaines voitures dont je retrouve les pistes parce que je sais qu'il y a eu un petit reportage dans les années 70 ou même 60, où il parlait d'un personnage qui était propriétaire de la voiture et 40 ans après, vous trouvez les coordonnées de cette personne qui est, avec un peu de chance, toujours vivante et elle a toujours la voiture. C'est la recherche du Saint Graal, c'est fabuleux.
Cette année, Thierry Farge a fait venir le Tessan, l'un des plus gros camions du monde.
Et voilà, un gros camion, je sais que vous adoriez ça quand vous étiez petit, Nicolas. Okay. Salon Rétromobile, c'est au Parc des Expositions, bien sûr.
Merci Sébastien Legénie.